Bien, travailleuses, travailleurs, chers camarades, chers amis. Donc avant de passer à l'apéritif, je voudrais vous dire quelques mots de la situation politique. Et d'abord, commencer par une vue d'ensemble, hein, parce que depuis 4 ans, la politique de Hollande est une longue suite de reniements et de trahisons. Hollande a fait campagne en désignant la finance comme son ennemi, et il finit flanqué d'un ministre de l'économie, qui est un ancien de la banque Rothschild, et qui ne jure que par la réussite individuelle. Il avait fait le tour des salariés menacés par la fermeture de leur usine. Il était allé leur faire des promesses auprès de ceux d'ArcelorMittal, de PSA, de Goodyear. Aujourd'hui, la plupart de ces ouvriers pointent à Pôle emploi et même certains sont traités comme des criminels, hein, puisque vous le savez, 8 ouvriers de Goodyear sont menacés de se retrouver derrière les barreaux parce qu'ils se sont battus justement pour essayer de sauver leur emploi. Alors, n'en déplaise à Juppé, Fillon et Sarkozy, qui se moquent toujours de Hollande en expliquant qu'il n'a pas de cap, qu'il n'a pas de colonne vertébrale, eh bien, en matière de mesures anti-ouvrières, il les a tous dépassées de plusieurs têtes. Le patronat voulait une réforme des retraites. Il l'a eue. Il voulait pouvoir baisser les salaires et allonger le temps de travail au nom de la compétitivité. Eh bien, il peut le faire grâce à la loi sur la compétitivité de 2013. Le patronat voulait des baisses de cotisations et d'impôts. Hollande lui en a donné pour 41 milliards quand même. Et comme pour finir en beauté, le boulot demandé par le patronat, eh bien Hollande et Valls veulent maintenant dynamiter le droit du travail avec la réforme El Khomri. Même si le gouvernement a baissé d'un ton depuis une semaine et a lâché un peu de lest, en particulier sur le plafonnement des indemnités prud'homales, ce texte reste bien sûr une démolition des droits des travailleurs. Journée de 12 heures. Des séries de semaines de 46 heures, des semaines de 48 heures et même de 60 heures. Avec cet avant-projet de loi, eh bien les 35 heures n'existent plus que sur le papier. Et ce, d'autant plus que les heures supplémentaires seront de moins en moins payées parce que la majoration légale sera rabaissée à 10% au lieu de 25% aujourd'hui et surtout parce que ces heures supplémentaires ne seront plus comptabilisées sur la semaine mais pourront être comptabilisées sur l'année. Alors ce projet de loi sonne aussi la fin des droits collectifs et ouvre les portes à la généralisation du chantage patronal en donnant la possibilité aux accords d'entreprise de fixer des droits inférieurs aux conventions de branche. Et tout est prévu. Si les syndicats refusaient d'exaucer les 4 volontés patronales, eh bien il y aura le fameux référendum d'entreprise. Tous les bénis oui-oui du patronat nous expliquent que personne ne peut être opposé à ces référendums d'entreprise, puisqu'il s'agit de démocratie. Mais où ont-ils vu qu'il y avait de la démocratie dans les entreprises ? Les référendums ne sont sûrement pas demandés ne sont sûrement pas envisagés pour demander l'avis des salariés sur les cadences ou sur les augmentations de salaire. Ils sont utilisés pour faire du chantage au licenciement et pour forcer les salariés à abandonner le peu de droits qu'il leur reste. Et prétendre, comme le fait le gouvernement, que cette loi aidera à créer des emplois, c'est vraiment se moquer et des chômeurs et des travailleurs. Parce que cette loi prévoit au contraire de faciliter les licenciements économiques. Si cette réforme passe, le patronat obtiendra un véritable permis de licencier. Et comment oser dire qu'il est aujourd'hui difficile de licencier quand il y a près de 700 000 licenciements par an et 300 000 ruptures conventionnelles. Toutes les pleurnicheries patronales sur le manque de flexibilité et sur leur angoisse d'embaucher sont insupportables. Plus de 80% des embauches se font déjà en CDD, des CDD d'une semaine, de 15 jours. L'intérim, les petits boulots de quelques jours sont déjà le lot de la jeunesse ouvrière. La flexibilité, les horaires à rallonge, les licenciements arbitraires sont déjà subis par des millions de travailleurs, par les intérimaires, mais aussi par bien des salariés des petites entreprises. Parce que les patrons peuvent contourner de mille façons leurs obligations légales quand ils ne s'assoient pas tout simplement sur le code du travail. Et c'est même le lot d'1 million de femmes et d'hommes qui travaillent dans la fonction publique, dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans les collectivités locales. Alors, si le gouvernement voulait réellement résorber la précarité, eh bien, il aurait un moyen très simple de le faire, c'est d'embaucher en CDI tous les précaires qu'il y a dans la fonction publique. Avec ce texte, aucun salarié n'est épargné, et pas même ceux qui croient avoir déjà touché le fond de la précarité, pas même les intérimaires que la loi vise en leur supprimant le paiement des jours fériés, pas même les femmes déjà soumises au petit boulot, puisque cette loi veut légaliser à nouveau les temps partiels de moins de 24 heures. Et pas même les salariés dont la santé est fragile, puisque cette loi va réduire l'intervention de la médecine du travail et diminuer les possibilités d'aménagement de postes de travail. Si le monde ouvrier ne se met pas au travers de cette loi, elle ouvrira les vannes à un recul général de la condition ouvrière. Alors la seule chose que l'on peut espérer, c'est que les deux journées de mobilisation qui ont eu lieu, le 9 et le 17 mars, et qui ont été deux journées de mobilisation réussies, et qui ont d'ailleurs déjà forcé le gouvernement à baisser le ton, et bien que ces deux journées donnent envie à d'autres travailleurs de se manifester. Il faut tout faire pour que cette mobilisation se développe et pour que le 31 mars se transforme en levée massive du monde du travail. Ce texte est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour beaucoup de ceux qui se disent de gauche. Eh bien, il faut qu'ils retrouvent le chemin des grèves et des manifestations, parce que c'est comme cela, et uniquement comme cela, que nous nous ferons respecter de ce gouvernement. Alors, je l'ai dit, ce ne sont pas les raisons de contester qui manquent. Ce qui manque encore, c'est la confiance en nos forces, dans notre capacité à réagir collectivement. Eh bien, il faut faire en sorte que les travailleurs retrouvent l'énergie et les moyens de se défendre, l'envie de se défendre. Parce que quand à l'autre pôle de la société, l'argent dégouline, lorsque les grandes banques affichent des 3, des 4, des 5 milliards de profits, quand les grands groupes se rachètent à coups de dizaines de milliards et servent des dividendes royaux aux plus riches, toutes ces attaques sont des provocations. Quel que soit leur secteur, l'automobile, les transports, la banque, tous les salariés sont soumis à une discipline de fer. Et ils en produisent des richesses. Ils en suent des profits et des milliards. Où conduit cette accumulation de bénéfices et de dividendes? Y a-t-il eu des investissements, les investissements promis? L'avènement d'une économie plus moderne? Les emplois? Ben non, on s'enfonce dans la crise. Et comme les milliards que les capitalistes extraient de la production et de l'exploitation des travailleurs ne leur suffisent pas, eh bien ils les jouent au casino de la finance. Autrement dit, plus les travailleurs triment et produisent des richesses, plus leurs conditions de travail et de vie se dégradent et plus la spéculation est alimentée par des milliers de milliards et plus on risque le krach généralisé. Alors y a-t-il une économie plus folle que celle-là? La classe qui domine aujourd'hui est aussi avide qu'irresponsable. Et tout ce qu'elle mérite, c'est que la colère sociale fasse tache d'huile et que le monde ouvrier entre dans la danse avec toute la force sociale qu'il représente pour arrêter les attaques, pour revendiquer ses droits et pour contester la domination du grand capital sur l'économie et sur toute la société. Alors sur le plan économique et social, il n'y a plus de différence entre le Parti socialiste et la droite depuis fort longtemps. Mais jusqu'à présent, les dirigeants du Parti socialiste tenaient à se distinguer de la droite, au moins sur le plan dit sociétal. Eh bien aujourd'hui, on peut dire que c'est terminé. Les attentats de l'année 2015, L'émotion et la peur du terrorisme ont fourni à Hollande et à Valls l'occasion d'un virage sécuritaire brutal. État d'urgence prolongé, déchéance de nationalité, pouvoir de la police et de l'administration renforcé. Hollande et Valls épousent et alimentent la droitisation de la vie politique. Et le revirement est grossier quand on se souvient que Hollande s'est fait élire en promettant le droit de vote des étrangers aux élections locales. Alors voilà, le Parti socialiste prétend lutter contre le Front national, mais il va chercher dans le programme des Le Pen et dans celui de la droite les mesures les plus crasses. Et lui aussi, il cultive la suspicion et l'amalgame qui favoriseront fatalement les replis identitaires et le communautarisme. Alors c'est de la part de Hollande et de Valls de l'opportunisme, le plus abject qui soit, mais c'est aussi une nécessité politique pour le Parti socialiste dans son ensemble. Parce qu'on l'a vu dans les différentes élections, la politique économique et sociale du gouvernement sape les bases électorales du Parti socialiste. Elle le coupe de l'électorat populaire qui, entraîné par le Parti communiste, finissait toujours par voter pour le PS. Mais se faire élire par les classes populaires pour mener une politique contraire à leurs intérêts, eh bien cela ne peut pas durer indéfiniment. Il y a une limite à cela. Eh bien, on y est. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le Parti socialiste, Valls et Hollande cherchent de plus en plus à s'adresser à un nouvel électorat, à des couches petites bourgeoises. Tout cela pour dire que le Parti socialiste, qui constitue le pivot de la gauche depuis près de 40 ans, est en train de mourir, en tout cas tel qu'on le connaissait. Hollande, Valls et Macron sont en train de l'enterrer et il n'y a pas à s'en émouvoir ou à le regretter, car cela fait longtemps que le Parti socialiste ne représente plus les intérêts des travailleurs. Les dirigeants du Parti socialiste ont rompu les amarres avec leur héritage issu du mouvement ouvrier. Eh bien, il ne faut plus que le monde du travail se sente lié de quelque façon que ce soit à ce Parti socialiste. Vu la droitisation du PS, il suffira de brandir quelques principes d'égalité, de tolérance ou de parler de l'intérêt général ou l'intérêt collectif pour se faire coller une étiquette de gauche. Autant dire que les prétendants à la reconstruction de la gauche risquent d'être nombreux. Aujourd'hui, cela va des frondeurs du Parti socialiste jusqu'au Parti communiste, en passant bien sûr par Aubry, Mélenchon, Duflot, Hamon, Montebourg, voire Nicolas Hulot. D'ici la présidentielle, les manœuvres et les empoignades vont se multiplier. Mélenchon, qui se veut le fer de lance de cette gauche de la gauche, a annoncé sa candidature pour la présidentielle. Non seulement il l'a fait contre l'avis du Parti communiste, son principal partenaire dans le front de gauche, mais il l'a fait sans même se donner la peine de l'avertir. Mélenchon compte peut-être sur les militants du Parti communiste pour coller ses affiches et pour faire sa campagne, mais s'adresser à eux, c'est vraiment le dernier de son souci. Tout ça alors que les uns, comme les autres, n'ont que le mot d'unité à la bouche. Alors quant à nous, eh bien nous continuerons de nous revendiquer non pas de la gauche, mais du camp des travailleurs. Nous ne participerons à aucune de ces tentatives qui consistent toutes à ressusciter la gauche, parce que se fixer un tel objectif est vague et trompeur. Faut-il rappeler que Hollande, Valls et Macron se revendiquent toujours de la gauche ? Faut-il rappeler que de Mitterrand à Hollande, tous se sont présentés comme des candidats vraiment à gauche et qu'à chaque fois, il y a eu tromperie sur la marchandise ? Faut-il rappeler l'échec cruel de la politique vraiment à gauche d'Alexis Tsipras en Grèce ? Continuer de raisonner en termes de gauche et de droite ne rime plus à rien. Cette division ne recouvre plus qu'un jeu entre politiciens qui se concurrencent pour la mangeoire, mais qui sont fondamentalement respectueux du système capitaliste et de l'ordre bourgeois. Les véritables frontières politiques ne sont pas entre la droite et la gauche politicienne. Elles sont déterminées par les intérêts de classe, par les intérêts des travailleurs, des exploités d'un côté, et de l'autre par les intérêts du grand patronat, de cette poignée de capitalistes qui décide seule de toute l'économie et qui traite les travailleurs comme des pions. Et si l'on veut que la politique change réellement, si on ne veut plus de cette fausse alternance gauche-droite, eh bien il faut que les travailleurs interviennent et pèsent à nouveau sur la vie politique en se battant. La politique et la vie des travailleurs changeront si le rapport de force entre les travailleurs et le patronat change, si les travailleurs se lèvent à nouveau pour leurs intérêts. C'est pourquoi nous militons pour que les travailleurs se manifestent dans toutes les luttes sociales. Mais pour qu'ils soient en mesure de le faire, il faut aussi que les travailleurs s'expriment politiquement. Il faut qu'ils défendent leurs exigences, qu'ils mettent en avant leurs intérêts de classe dans tous les combats politiques. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous présenter lors de la prochaine présidentielle. Et c'est pourquoi mes camarades m'ont confié la tâche d'être candidate en 2017 pour faire entendre le camp des travailleurs. Alors la petite agitation qui se déroule, on aimerait qu'elle grandisse évidemment, mais cette agitation qui se déroule en ce moment contre la loi El Khomri, elle est propice pour nous et pour défendre nos idées. Mais on le voit au travers de l'emprise croissante du Front National, et on le voit aussi au travers de la remontée des pratiques religieuses, des replis identitaires, on le voit avec l'attirance morbide qu'exerce le terrorisme sur une fraction de la jeunesse, il y a un retour en force des idées réactionnaires. Cette montée des idées réactionnaires s'explique par la crise et par l'exacerbation de la concurrence du chacun pour soi. Elle trouve son terreau dans notre société, qui exclut, qui marginalise encore et toujours. Mais elle s'explique aussi par un long recul du mouvement ouvrier lui-même, par l'affaiblissement des réseaux militants et par le recul des idéaux portés par le mouvement ouvrier. Aujourd'hui, le Front National se développe sur les trahisons et sur les décombres de la gauche. Les dernières élections régionales ont montré que le Front National remporte des scores importants dans les régions et dans les quartiers ouvriers, et jusque-là, politiquement influencé par le PS et surtout par le PC. Cela signifie qu'une partie des électeurs du PS et du PC se sont réfugiés dans l'abstention et que d'autres, beaucoup trop d'autres, ont basculé dans le vote pour le Front National. Ces électeurs du Front National ne sont pas devenus subitement racistes et encore moins fascistes. Nous en connaissons tous et nous savons que la plupart l'ont fait d'abord et avant tout pour rejeter la politique du Parti Socialiste, pour se venger du Parti Socialiste et du Parti Communiste aussi, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été trahis et abandonnés. Et c'est vrai qu'ils ont été trahis et abandonnés. Pendant des décennies, ces électeurs sont restés fidèles au Parti Socialiste et au Parti Communiste. Et pourtant, ils en ont avalé des couleuvres. Sous Mitterrand déjà, qui avait instauré la rigueur et qui avait fini par encenser la bourse. Sous Jospin et ses fameuses ouvertures de capital, mais qui n'étaient rien d'autre que des privatisations et qui avaient été orchestrées par des ministres communistes. Et ce sont les militants ouvriers, syndicalistes ou associatifs qui ont été les plus désarçonnés par les reniements et les capitulations des gouvernements socialistes. Eux, qui avaient convaincu leurs camarades de travail de voter pour la gauche, se sont retrouvés maintes et maintes fois à justifier des mesures qu'ils avaient toujours combattues, jusqu'à ce qu'ils finissent eux-mêmes par se sentir trahis, par abandonner leur activité militante, et pire encore, par perdre confiance dans des idées qui les avaient toujours animés. Alors, bien sûr, il faut être sacrément déboussolé et inconscient pour passer de l'écœurement au vote pour un parti d'extrême droite comme le Front National. Mais c'est le rôle d'un parti ouvrier, d'une direction et des militants de permettre aux exploités de comprendre la situation et d'avoir une boussole. Le Parti Socialiste a joué le rôle inverse, en trompant les travailleurs des décennies durant. Mais le Parti communiste n'a pas non plus joué ce rôle. Le PC s'est construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain, pardon, de la Première Guerre mondiale, pour relever le drapeau de la Révolution qui avait été piétiné par le Parti socialiste. Dans ces premières années, en regroupant les travailleurs les plus combatifs et les plus conscients qui avaient été enthousiasmés par la révolution russe, le PC a contribué à écrire les pages les plus glorieuses du mouvement ouvrier. Mais très vite tombé sous la coupe stalinienne, il a fini, lui aussi, par s'intégrer au système de la bourgeoisie. Et lui aussi s'est mis à entonner que les frontières politiques passaient entre la gauche et la droite, que voter à gauche allait changer la vie des travailleurs. Pendant des décennies, le Parti communiste a été complice de l'imposture du PS. Le mouvement ouvrier s'était aussi toujours battu pour diffuser une conscience internationaliste parmi les travailleurs et pour dénoncer le patriotisme de la bourgeoisie qui cache toujours des visées impérialistes. C'était ce que signifiaient l'international et le drapeau rouge. Eh bien, non seulement le Parti communiste n'a pas combattu dans ce sens, mais il a présenté le nationalisme, le produire français et les frontières comme une façon de se protéger de la concurrence, alors que les travailleurs avaient à se protéger des capitalistes et de ceux qui les exploitent ici. Si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où une Marine Le Pen peut se permettre de citer Georges Marchais pour justifier sa politique de préférence nationale. Alors oui, tout ça a brouillé les repères politiques et cela a contribué à la désorientation de la classe ouvrière que l'on constate aujourd'hui. Alors le problème, ce n'est pas de ressasser le passé, il s'agit bien du présent. Il faut que les militants qui n'ont pas renoncé et qui veulent aujourd'hui reconstruire comprennent à quel moment le mouvement ouvrier a dévié. Le mouvement ouvrier s'est affaibli parce que les partis qui prétendaient représenter les intérêts des travailleurs ont abandonné les idées de lutte de classe. Eh bien, il faut reconstruire un parti qui défende ces idées de lutte de classe. Les partis de gauche ont abandonné jusqu'à ces mots de travailleurs, de lutte de classe. Mais les travailleurs, ils sont là, et bien là. Et ils sont toujours indispensables au fonctionnement de la société. Ce sont eux qui font tourner la machine à profit. Et ils se battront à nouveau parce que la lutte de classe, ce n'est pas une invention des révolutionnaires. C'est la vie. Et c'est même le moteur de l'histoire. Alors nous plaçons notre confiance dans les travailleurs, dans leur capacité collective à transformer la société par en bas. Et dans le passé, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. Avec la Commune de Paris de 1871, mais aussi avec la Révolution russe de 1917, ils ont fait la preuve qu'ils pouvaient transformer la société, en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, en sachant tirer toutes les leçons de leur expérience, de leurs succès et de leurs échecs, en renouant avec le meilleur du mouvement ouvrier, oui, les travailleurs feront à nouveau progresser toute la société. Donc, vous l'aurez compris, il faut reconstruire et il y a un tas de choses à faire. Avec la montée du Front National, d'un côté, le terrorisme, de l'autre, tout concourt à exacerber le racisme, la méfiance, le rejet de l'autre. Et ce sont là des éléments d'un engrenage mortel. Mais encore une fois, cette évolution réactionnaire, encouragée d'ailleurs par les grands partis qui se targuent d'être républicains, eh bien cette poussée réactionnaire est la conséquence de décennies de recul du mouvement ouvrier. Elle provient du recul de la conscience de classe et il faut contribuer à ce qu'elle renaisse. Et cela passe par la renaissance d'un parti qui, sur tous les événements, prenne position du point de vue des intérêts des travailleurs d'un point de vue de classe. Contre les divisions semées dans la classe ouvrière d'ici, il faut affirmer la conscience de nos intérêts communs, par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines, de nos statuts. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité ou de notre confession. Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignantes, des caissières, des anciennants, qu'on soit en activité ou qu'on soit au chômage. Alors, il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veulent dresser un mur entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Contre la guerre et les bombardements sur la Syrie et l'Irak, il faut affirmer que le terrorisme est le fruit pourri de l'impérialisme. Le chaos qui règne dans ces régions, Daesh, qui exerce une des dictatures les plus féroces, sont le produit des rivalités, du pillage et de l'oppression des grandes puissances. De l'Arabie Saoudite, des Américains, du Qatar, de la Russie, mais bien sûr de la France aussi. Avec leurs bombes et leurs manœuvres actuelles, ils vont créer de nouveaux monstres. Alors abat la politique impérialiste et les interventions guerrières de la France. Contre le sort inhumain qui est fait aux migrants, il faut affirmer pour tous les exploités de cette terre la liberté de circulation et d'installation. Les migrants qui ont réussi à traverser la Méditerranée sont des survivants. On ne peut pas accepter qu'ils se heurtent en Europe, aux murs et aux barbelés, et qu'ils prennent encore le risque de mourir écrasés, électrocutés ou d'épuisement. En leur assurant la liberté de circulation et d'installation, il n'y aurait pas de camp, ni à Calais, ni en Grèce. Les réfugiés se répartiraient d'eux-mêmes à l'échelle de cet immense continent de 500 millions de personnes, et ils pourraient s'appuyer sur des membres de leur famille et sur toutes les bonnes volontés qui existent. C'est la fermeture des frontières qui crée aujourd'hui ce drame humain des migrants. Et si nous acceptons de laisser mourir les femmes et les hommes qui frappent à nos portes parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux, demain, on nous forcera à accepter que l'on abandonne des travailleurs bien d'ici avec la même indifférence. Il faut que les travailleurs accueillent les migrants à bras ouverts et qu'ils en fassent au plus vite des frères de classe et des frères de combat pour changer cette société de plus en plus inhumaine. Et pour conclure, contre l'organisation capitaliste de l'économie, il faut affirmer les perspectives communistes. Nous ne sommes pas condamnés à cette dictature d'une poignée de grands actionnaires. Ils sont à la tête d'un système aussi injuste qu'irrationnel. Il n'y a jamais eu autant de richesses. Et pourtant, on ne nous parle que de crise, de déficit. On nous met dans le crâne qu'il faut accepter des sacrifices, accepter de vivre moins bien que nos parents. Et c'est sans parler de ce qui se passe dans les pays les plus pauvres. Eh bien, il faut mettre fin à l'obstacle que constitue la propriété privée des moyens de production, des usines, des banques, des transports et des grandes chaînes de distribution qui empêchent toute organisation rationnelle de l'économie. Mettre en commun ces moyens de production, c'est le sens profond du mot communisme. Ce mot communisme a été dénaturé et transformé en son contraire. Mais il est un des mots les plus riches de signification et les plus beaux. Il a surgi des rêves égalitaires de l'humanité depuis des temps immémoriaux et les travailleurs l'ont sorti du domaine des utopies et l'ont transformé en projet conscient en se battant et en faisant plusieurs révolutions. Le chacun pour soi, la lutte individuelle pour la vie pourrait enfin céder la place à la conscience collective que l'humanité est une et indivisible et qu'elle a les moyens d'assurer une vie digne à chacun de ses membres. Et la seule force sociale capable de transformer la société dans ce sens, ce sont les travailleurs. Même si aujourd'hui, ils sont abattus, divisés et passifs, nous sommes convaincus qu'ils reprendront le combat parce qu'ils n'auront pas le choix. Parce que ni le patronat, ni le gouvernement ne leur fera de cadeau. Avec la mobilisation en cours contre la loi El Khomri, on voit comment il est possible de sortir de la passivité et de passer à nouveau à l'action. On voit comment, de manifestation en manifestation, l'état d'esprit peut changer dans la classe ouvrière. Alors oui, l'état d'esprit peut changer, et nous en sommes convaincus. Tôt ou tard, les travailleurs chercheront le chemin pour un avenir meilleur et il faut qu'ils puissent trouver le chemin vers le communisme.